Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Ce cours de cette année, donc, que je commence aujourd'hui, est la quatrième livraison d'une série sur l'histoire du Shaanxi pendant les 25 premières années de la République chinoise, dont je présume qu'un certain nombre d'entre vous avaient suivi les trois années précédentes. Et comme chaque année, à ceux qui m'en font la demande, je peux donner mes résumés d'enseignement précédents, donc pour avoir le contexte. Je précise aussi tout de suite que ce sera la dernière livraison de cette série, cette année, de cette série qui aurait été en fin de compte assez longue, nettement plus que je ne le prévoyais au départ, comme d'habitude, assez sinueuse aussi, et parfois même, je le crains, un peu compliquée. C'est que le sujet lui-même est compliqué, et qu'il touche à beaucoup de choses, si bien qu'un certain nombre de digressions se sont imposées en cours de route que je n'avais pas anticipées et qui ont parfois pris des dimensions imprévues. Et puis, la nature même de ce sujet impliquait de passer sans cesse d'une thématique à l'autre, et non seulement cela, mais aussi de changer assez souvent de registre à l'intérieur d'une même thématique. Et comme il en sera de même cette année, je crois qu'il n'est pas inutile que je commence par m'expliquer rapidement sur ces thématiques et sur ces registres dont je viens de parler. Ce qui d'ailleurs me permettra à la fois de rappeler ce que j'ai fait jusqu'à présent et aussi de cadrer l'exposé de cette année. Les différents thèmes dont j'ai traité depuis trois ans, pour commencer par là, correspondent bien sûr aux trois catégories, ou pourrait-on dire aux trois corporations, qui sont mentionnées pour la quatrième fois consécutive dans le titre du cours, sur l'affiche. Les ingénieurs, les philanthropes et les seigneurs de la guerre. D'une certaine manière, on pourrait dire que ces trois corporations illustrent ou symbolisent trois types d'interventions qui ont eu une importance capitale dans le développement historique de la Chine républicaine. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand je parle de Chine républicaine, de la période qui s'étend de la révolution de 1911 jusqu'à la guerre sino-japonaise qui éclate en 1937 et qui change complètement la donne en Chine, à commencer par le fait que l'armée japonaise est rapidement parvenu à occuper une grande part du territoire. Donc, mon terminus, c'est 36-37. Le premier type d'intervention auquel je viens de faire allusion, ce sont les efforts du milieu émergent des technocrates pour tout simplement transformer la Chine en un pays moderne. Ce qui voulait d'abord dire de la transformer en un pays capable de s'affirmer en face de l'Occident et du Japon au lieu d'être dominé par eux. La profession d'ingénieur ne résume certes pas cette nouvelle Chine technocratique, car on y trouve aussi l'élite économique moderne, des financiers, des grands marchands, des industriels, etc. On y trouve aussi les nouvelles professions libérales, les juristes, les médecins, et ainsi de suite, ou encore l'élite universitaire occidentalisée, et d'autres catégories encore. Mais les ingénieurs occupent incontestablement une place très en vue dans ce milieu des nouveaux de ce que j'appelle les nouveaux technocrates. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas seulement à cause de la nouveauté des compétences techniques qu'ils apportaient et de leur importance économique de ces compétences, c'est aussi parce que certains d'entre eux ont été très proches des cercles du pouvoir, ou devrais-je dire des nombreux pouvoirs qui se sont succédés ou concurrencés en Chine pendant l'époque qui nous occupe. Et ils ont cherché à y exercer une influence dans un sens justement technocratique. Voilà donc pour le premier type d'intervention. Le second type d'intervention, c'est l'action humanitaire dont l'objet était de porter secours aux victimes des calamités naturelles et des désastres humains de toutes sortes qui ont affligé la Chine et de façon exceptionnellement fréquente pendant toute cette période. Or, ce sont les organisations philanthropiques, l'aide charitable internationale, etc., disons les organisations non gouvernementales, qui ont été à la pointe dans ce domaine pendant cette période, ne serait-ce que parce que, pendant la période républicaine, l'État, à qui de telles responsabilités incombent traditionnellement en Chine, l'État s'est presque toujours montré incapable de les assumer. Et enfin, troisième type d'intervention, si l'on peut dire, le militarisme. Et là, il est clair qu'il s'agit d'une intervention largement négative, ruineuse, destructrice et en outre politiquement et socialement réactionnaire, encore qu'il ne faille pas systématiquement généraliser. L'apogée du militarisme dans la Chine républicaine, c'est bien sûr l'âge des seigneurs de la guerre. Au sens étroit, cet âge des seigneurs de la guerre ne dure pas beaucoup plus qu'une seule décennie, une décennie que l'on fait conventionnellement durer de la mort du président de la République, Yuan Shikai, en 1916, à la réunification du pays sous l'égide du Parti nationaliste en 1927 ou 28. Mais dans un sens plus large, la mentalité et le mode de fonctionnement des seigneurs de la guerre, qu'on pourrait résumer d'un mot, ce sont une mentalité et un fort mode de fonctionnement de satrape, qu'ils soient à petite ou à grande échelle. Cette mentalité donc et ce mode de fonctionnement se sont fait jour dès les lendemains de la révolution 1911. Et à l'autre bout de la période, le gouvernement nationaliste a mis un certain temps à faire rentrer dans le rang les seigneurs de la guerre qui continuaient de manifester leur velléité d'indépendance. En fait, il n'y est jamais complètement parvenu, du moins pas avant la fin de la guerre du Pacifique, avant 1945. Et puis, après tout, on a pu aussi dire que Chiang Kai-shek lui-même, le généralissime qui a conduit le parti nationaliste à la conquête de la République, avant d'en devenir lui-même, si je puis dire, le présidentissime, le Tatsongtong, que Chiang Kai-shek était lui aussi une sorte de seigneur de la guerre. Quoi qu'il en soit, je dois tout de suite admettre que ces trois types d'interventions que je viens d'énumérer rapidement ne résument pas à eux seuls toute l'histoire de la Chine républicaine. Mais ils en constituent tout de même une bonne partie. Et puis, et c'est un point important, il s'agit de domaines qui sont encore assez mal connus, du moins certains aspects, sur lesquels je me suis particulièrement attardé. Le militarisme et les seigneurs de la guerre ont déjà été beaucoup étudiés, c'est vrai. Encore que, dans le détail, j'ai été amené, chemin faisant, à découvrir beaucoup de choses tout à fait inédites. En revanche, la corporation des ingénieurs, ses origines et son émergence en Chine, son impact intellectuel et social, le rôle qu'elle a joué dans le développement économique, tout cela reste encore très mal connu. Quant à la philanthropie, s'il existe quelques études partielles, en anglais ou en japonais, j'ai souligné l'an passé à quel point il s'agit là d'un sujet nouveau en Chine. Et d'une manière plus générale, en fait, j'ai souligné le fait que les historiens chinois n'ont été amenés que très récemment à redécouvrir, en quelque sorte, la période républicaine. Je veux dire, à la redécouvrir positivement, à en redécouvrir la richesse et la créativité extraordinaire et à reconnaître tout ce qu'elle a apporté à la Chine et donc à l'envisager autrement que dans les termes de la vulgate communiste, c'est-à-dire comme une sorte d'intermède inutile et sombre entre l'Empire et la République populaire, un intermède placé sous le double signe de la réaction et de l'impérialisme, et un intermède où le seul aspect positif, finalement, est la saga révolutionnaire. En tout cas, et pour revenir au bilan des trois années passées, j'ai déjà beaucoup parlé du militarisme et des seigneurs de la guerre. Je note quand même que les deux ne se confondent pas entièrement. Et si je me réfère au terrain qui me concerne plus particulièrement, sur lequel je vais revenir de suite, j'ai eu à évoquer également certains épisodes de militarisme révolutionnaire ou de militarisme de gauche, si vous voulez, dont l'impact a été, pour dire le moins, ambigu. Et de même, j'ai eu l'occasion de parler d'abondance de la philanthropie. En fait, j'y ai consacré l'ensemble du cours de l'année dernière. En revanche, je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup élaborer sur la profession d'ingénieur, en dehors de quelques remarques plutôt générales, ou alors en passant, et surtout en évoquant certains individus particuliers que nous allons d'ailleurs retrouver dans l'exposé de cette année. Je pense bien sûr à l'ingénieur Li Yijie, dont le nom doit être à présent familier à mes auditeurs habituels, ou encore à son collègue américain O.J. Todd, que nous avons également rencontré à plusieurs reprises. Mais nous finirons par y venir à la profession d'ingénieur, et nous y reviendrons même de façon systématique, car j'ai décidé en fin de compte de consacrer tout le séminaire de cette année à ce thème, donc sous le titre « L'émergence de la profession d'ingénieur en Chine ». Ce séminaire sera regroupé en probablement deux jours sous la forme d'un colloque au mois de juin, où viendront s'exprimer plusieurs collègues étrangers et français qui ont travaillé sur ce sujet. Donc le sujet de l'ingénieur sera finalement reconnue à sa juste place. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas entendre parler d'ingénieurs pendant le cours proprement dit, c'est-à-dire pendant les semaines qui viennent. Au contraire, comme nous le verrons, les ingénieurs en travaux publics, en particulier, ont eu un impact tout à fait décisif sur la phase de décollage économique qui s'enclenche dans le nord-ouest de la Chine, non sans beaucoup de lenteur et beaucoup de difficultés, certes, à partir de 1930. Cette phase de décollage économique, c'est ce que j'ai appelé, toujours dans l'intitulé du cours de cette année, c'est ce que j'ai appelé le cycle vertueux du développement. Et je vais y revenir. Et à ce propos, j'aurai à évoquer par-delà un certain nombre de personnages, donc d'ingénieurs, j'aurai à évoquer la sensibilité, pour ne pas dire la forme d'esprit, qui me semble incarner la profession d'ingénieur, et c'est très visible dans les documents que j'ai utilisés, ou pour l'exprimer de façon un peu différente, l'approche des problèmes économiques et sociaux qui la caractérise, cette profession, me semble-t-il, et dont l'on pourrait même dire que cette profession est emblématique. Cette approche, je la définirais peut-être comme une approche à la fois pragmatique et scientifique. Elle se fonde en effet sur la quantification des problèmes. Devant un problème, un ingénieur est toujours sa règle à calcul à la main. Elle se fonde sur le calcul systématique des coûts et des bénéfices et tout simplement sur l'évaluation objective de ce qui est possible. Et elle se méfie par conséquent de l'idéologie. si des gens comme Li Jie et ses collègues n'ont pas eu peur de composer avec la politique et avec les politiciens lorsque ça leur permettait de réaliser leurs projets, ils évitaient aussi de se laisser happer par la politique. En bref, c'est à une approche technocratique que nous avons affaire, qui est bien sûr inséparable de la formation technique que reçoivent les ingénieurs et qui les définit en tant que catégorie professionnelle, qu'il l'ait reçu en l'occurrence cette formation, qu'il l'ait reçu en Chine même ou qu'il l'ait reçu à l'étranger, comme c'était presque toujours le cas des leaders, des chefs de la profession à l'époque républicaine, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus connus et les plus influents. Quoi qu'il en soit, le décollage économique que j'évoquais à l'instant va être l'essentiel de mon sujet cette année. Ce que je vais essayer d'analyser et de décrire, c'est la mise en route de ce cercle vertueux du développement dont j'ai parlé, et dont je parle, bien sûr, par opposition au cercle vicieux du sous-développement qui avait été plus ou moins le sujet de mes précédents cours, en particulier il y a 2 ans, lorsque j'avais longuement parlé du cycle de famine et de guerre civile, dans lequel le nord-ouest de la Chine semblait irrémédiablement bloqué, sans espoir de sortie, depuis les années 1860, en fait, et jusqu'à 1930 environ, et de façon particulièrement spectaculaire et, pourrait-on dire, désespérante pour les gens qui vivaient tout cela, à l'extrême fin de cette période, donc à la veille de, ou jusqu'en 1930. L'opposition entre ces 2 cercles ou ces 2 cycles, quelle que soit la façon dont on les appelle, cette opposition est un peu schématique, je l'admets volontiers. Et il va de soi que les choses ne s'inversent jamais du jour au lendemain, même lorsque la transition d'un cycle à l'autre est marquée par un événement fort, comme ça a été le cas dans la région sur laquelle j'ai concentré mon attention depuis le début et qui va continuer de nous occuper. Quand je disais tout à l'heure que dans mes cours de ces trois dernières années, je suis assez souvent passé non seulement d'une thématique à l'autre, mais également d'un registre à l'autre, c'est en effet de cela que je voulais parler. C'est du registre local et du registre national. Autrement dit, la région sur laquelle porte immédiatement mon analyse et sur laquelle portent en fait mes recherches, d'une part, et d'autre part, le reste. Et c'est donc sur cet aspect, sur cette articulation spatiale, sur cette articulation entre le local et le national, que je voudrais à présent procéder à quelques rappels. Mon fil conducteur, comme le savent tous ceux qui ont suivi les cours précédents, et je m'excuse à l'avance si je me répète un peu, en tout cas aujourd'hui, mon fil conducteur est résolument local. Il est même très local, si l'on considère que mon intérêt pour toutes ces affaires est parti d'une zone qui n'excède guère, et encore en comptant large, 100 km sur 50, 100 km d'est en ouest et 50 du nord au sud. La particularité de cette zone, que je vous montrerai dans un instant, la particularité de cette zone, minuscule à l'échelle de la Chine, était d'être le site d'un système d'irrigation qui pouvait se prévaloir d'une très longue histoire, une histoire qui remontait à plus de 2000 ans, même si en l'occurrence c'est son histoire tout à fait récente qui m'intéresse, c'est-à-dire la façon dont ce système d'irrigation a été modernisé. J'en ai déjà parlé de cette modernisation au niveau donc de ce système d'irrigation, et j'en parlerai encore, mais ce sera sous un angle nouveau et en introduisant des données inédites. Mais il va de soi qu'une telle histoire, une histoire aussi locale, est considérée dans la courte durée d'une vingtaine d'années, en fait, ou de 25 ans, disons, en comptant large, qu'une telle histoire ne peut en aucun cas être étudiée sans être mise en contexte, c'est-à-dire sans être replacée dans un espace plus vaste et dans un temps plus long. Je le rappelle donc, le site du Tinhuetu, puisque c'est le nom moderne du canal qui alimente tout le système, est situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Xi'an. Alors là, je suis confronté à un problème, c'est que c'est ou écrire au tableau ou projeter des diapositives, ce que je n'avais pas compris. Donc je vais écrire dans un coin aujourd'hui les quelques noms que certains d'entre vous doivent connaître déjà depuis longtemps, et je m'arrangerai autrement si le problème se représente. En effet, je n'aime pas l'idée de lancer des mots chinois qui sont dont personne ne sait comment ils s'écrivent. Donc, le canal Tinhui. Et puis, j'ai déjà parlé, bien sûr, de l'ingénieur, Li Yizhe. Donc, ce site du Tinhuetu, pour prendre son appellation moderne, est situé à environ 30-40 km au nord de Xi'an. Xi'an est aujourd'hui, comme vous le savez, la capitale d'une province importante, donc la province du Shaanxi, écrit avec deux A dans la transcription conventionnelle aujourd'hui. Et en outre, c'est une destination touristique très courue. Mais dans l'Antiquité, et plus encore à l'époque médiévale, sous la dynastie des Tang, lorsque la ville s'appelait, ou le site s'appelait Chang'an, c'était une métropole impériale prestigieuse vers laquelle convergeaient sinon des touristes, ou aussi des touristes peut-être, du moins des pèlerins, des ambassadeurs et des marchands venus de tout l'Extrême-Orient et de toute l'Asie intérieure. C'était une métropole d'ailleurs incomparablement plus vaste que Xi'an, la capitale provinciale de la fin de l'Empire, dont les murailles existent toujours. Et ce passé glorieux se rappelle aux souvenirs des contemporains d'aujourd'hui par une quantité de monuments et de vestiges archéologiques, ce qui explique bien sûr son succès touristique. Pour y revenir, le système d'irrigation dont je parle existe depuis avant la première unification impériale qui a eu lieu, comme chacun sait, en 221 avant notre ère. On l'appelait alors le Zhengguochu, le canal Zhenggu, du nom du personnage qu'il avait imaginé réaliser. Donc cette fois-ci, c'est le... qui s'appelait en effet Zhenggu. Je pense que c'est illisible pour une partie de la salle, mais enfin. S'appelait Zhengguochu. Et un peu plus tard, on a parlé du Zhengbaichu, c'est-à-dire du canal de Zheng et de Bai, le dénommé Bai, Monsieur Bai, étant un personnage sur lequel on ne sait par ailleurs rien du tout, qui a créé une branche importante du dispositif sous la dynastie des Han, au 1er siècle avant notre ère. Et c'est d'ailleurs cette branche, qu'on appelle donc le canal Bai, qui a survécu et qui a continué de fonctionner pendant presque toute la période impériale. Le canal originel, c'est-à-dire le Zhengguo, qui, à en croire les rares sources, très rares sources en fait, qui en parlent, était beaucoup plus long. Ce canal originel, beaucoup plus long, donc semble avoir été mis hors d'usage assez rapidement. Et même aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de par où y passer. En tout cas, et c'est le point important ici, cette infrastructure imposante était à l'origine beaucoup plus qu'un dispositif d'irrigation d'intérêt local, c'est-à-dire qui aurait concerné essentiellement les agriculteurs du coin. C'était une infrastructure qui avait une signification nationale, si l'on peut user d'un tel terme à l'époque pré-impériale, puisqu'il s'agissait de faire littéralement décoller la productivité d'un royaume le royaume de Qin, Q-I-N, qui avait le projet de conquérir tous les autres. La construction du canal Zhengzhou, en effet, date de la fin de l'époque dite des royaumes combattants. En d'autres termes, il s'agissait de lui donner à ce royaume les moyens économiques de ses ambitions. Plus précisément, l'objectif était de multiplier le rendement de l'agriculture à l'intérieur d'une sorte de zone pilote située au cœur même du royaume de Qin et à proximité de sa capitale, donc près de l'actuel Xi'an. Et c'est un fait que le royaume de Qin n'a pas tardé à absorber toutes les principautés rivales, encore une fois, comme chacun sait, et à unifier l'ère culturelle chinoise sous son pouvoir. Cela étant, donc la première dynastie impériale, la dynastie des Qin. Cela étant, j'ajoute que même si les historiens anciens affirment sans hésiter que c'est cette nouvelle force de frappe économique qui a permis au futur Qin Shi Huangdi, donc le premier empereur, d'avaler ses rivaux dans l'espace d'une vingtaine d'années, le rôle exact du canal Zhengzhou dans ce succès reste malgré tout à déterminer. En règle générale, déjà, il faut toujours se méfier des explications monocausales. Et puis, dans le cas présent, je pense qu'il est plus raisonnable de penser que cette nouvelle et apparemment spectaculaire infrastructure d'irrigation, sur laquelle, après tout, nous ne savons pas grand-chose de précis, n'a été qu'un élément parmi d'autres dans la montée en puissance effectivement très rapide de l'État de Qin pendant la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. Mais je continue de cibler spatialement mon propos. Comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de l'expliquer, cette zone irrigable, qu'on appelait au XXe siècle la zone du Weibei, c'est-à-dire située au nord de la rivière Wei, ou sur la rive gauche de la rivière Wei, que je vais vous montrer dans un instant, cette zone irrigable recouvre une partie seulement de la plaine du Guanzhong, c'est-à-dire, et ça c'est un nom que je citerai sans arrêt, donc le Weibei. Et donc la rivière Wei. Et puis cette région du Guanzhong, littéralement à l'intérieur des passes, qui correspond à la vallée de la Wei et qui est donc en fait la partie centrale de l'actuelle province du Shaanxi. Cette région du Guanzhong est bien définie géographiquement, que ce soit par sa topographie, par la densité de son peuplement, ou par sa relative fertilité, surtout quand on arrive à l'irriguer. Et surtout, elle possède une identité culturelle forte, appuyée sur une histoire glorieuse, comme on vient de le voir, et glorieuse, à vrai dire, dans des temps plutôt anciens. Et justement, la nostalgie des habitants du Guanzhong pour ces dynasties depuis longtemps disparues, les Han, les Tang, sous le règne desquels leur région avait été au centre même d'un empire dominant toute l'Asie orientale, cette nostalgie est un peu une constante de l'histoire du Guanzhong à la fin de la période impériale et au début de la République. Et ce qui nous concerne particulièrement ici, elle est régulièrement invoquée par les ingénieurs ou les politiciens qui ont tenté de ressusciter le site hydraulique du Zhengbai en le transformant en une infrastructure moderne. Et avant de poursuivre, et pour résumer, disons, ces éléments spatiaux que je viens de résumer, je vous les montre, et je m'excuse à l'avance auprès des auditeurs des années passées si je montre pour la deuxième, voire la troisième fois, les mêmes cartes. Sauf cette première que j'ai en fait pêchée sur le site du Monde il y a quelques jours, qui vous représente bien en fait la région, puisque vous y voyez cette zone en jaune qui, l'article porté sur la désertification et sur la Chine du Leus, donc montre ce qu'on appelle la zone du Leus en Chine, et la ville de Xi'an, ici bien sûr, et donc vous pouvez localiser la région qui nous intéresse sur l'ensemble de la carte de Chine. Cette carte est nettement plus détaillée, et que j'avais montré, c'est une carte qui représente la Chine exactement à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire en 1930, et là encore, vous pouvez voir la province du Shaanxi, la ville de Xi'an ici, et donc la vallée de la Wei qui traverse de part en part cette province. Et par une sorte d'illusion d'optique qui est inévitable quand on voit une carte de la Chine actuelle, cette province semble être tout à fait au centre du pays, alors qu'en fait, elle est à l'ouest, dans la mesure où ce qu'on pourrait appeler la Chine propre, C'est ça, c'est cette partie orientale et tout ce qui est à l'ouest de ces 18 provinces, comme on les appelle, et ce qu'on appelle la Chine extérieure, donc des possessions récentes qui sont d'une nature tout à fait différente. Et pour montrer encore une vue plus rapprochée de cette vallée de la Wei, voilà le parcours de la rivière Wei. Cette carte que j'aime particulièrement et qui d'ailleurs a été dessinée toujours à la même époque républicaine, elle est extraite d'un atlas dû à Ding Wentian, qui était un grand géologue et géographe, un de ces universitaires technocrates dont je parlais tout à l'heure. Elle est extraite donc de cet atlas dit du Shenbao, parce qu'il a été publié par le journal Shenbao de Shanghai en 1935 ou 1936, je ne me souviens plus exactement, et elle montre remarquablement bien le relief, disons, la position donc, de la plaine du Guangzhou, qui est dans une couleur plus claire. Donc c'est une excellente carte de ce point de vue-là. Et alors le site du Weibei, proprement dit, si je retrouve ma petite flèche, le site du Weibei, il est ici, c'est cette partie plus dense qui en fait représente une densité de cours d'eau et de canaux, et dont vous pouvez voir sa taille relativement à la plaine du Guangzhou et a fortiori relativement à la Chine. C'est ce que montre également cette carte extrêmement simple, extraite d'une publication également remontant à la même époque, où en grisé, vous avez l'extension vraiment maximale de ce site d'irrigation au sein de la province du Shaanxi. Et cette dernière vue, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, mais enfin les deux dernières vues, celle-ci ou celle-là, sont deux états différents de ce système d'irrigation. Celui-là, à l'époque de la reconstruction du canal, de la construction du canal Tinghui, donc ce dont je parle, et la vue suivante aujourd'hui, où il y a eu un certain nombre de changements. De changement de topographie. Et je montre quand même ces deux vues parce qu'elles résument parfaitement la nature même du système, c'est-à-dire un système qui avait pour fonction de récupérer l'eau d'une rivière naturelle, c'est cette rivière qu'on appelle la Ting, qui est un affluent de la Wei. Sur cette carte, on ne voit pas que la Wei continue par ici, de la récupérer et ensuite de la répartir dans la plaine par gravité. Donc, avec ces quelques éléments, vous avez tout de suite une situation spatiale du sujet, et je crois que c'est une chose tout à fait essentielle. Il ne s'agit pas aujourd'hui, bien sûr, de retracer en détail l'histoire bimillénaire du système d'irrigation du Weibei. Il me suffira de dire, ou de rappeler encore une fois, que cette histoire est un peu celle d'une longue décadence, avec des hauts et des bas, certes, mais une longue décadence quand même, au terme de laquelle, à la fin de la période impériale, disons à la fin du XIXe siècle, ce système n'était plus que l'ombre de lui-même. Pour le coup, ce n'était plus qu'un petit dispositif d'importance purement locale, desservant une poignée de riverains, et cela même si la mémoire de son importance passée restait vivace dans toute la région. Un signe particulièrement parlant de ce déclin, c'est qu'au XVIIIe siècle, en 1737 précisément, on avait fini par renoncer, pour des raisons de difficultés techniques, par renoncer à ce qui avait été jusqu'alors la raison d'être même du système, à savoir le dispositif qui permettait de capter une partie du courant de la rivière Ting, comme je l'ai montré à l'instant, et de le détourner dans ce qu'on peut décrire en termes techniques comme une sorte de canal de contour irriguant par gravité la plaine en contrebas. Mais quand je parle de contour et de contrebas, il s'agit de différences d'élévation, enfin d'altitude extrêmement faibles. Ça a l'air plat quand on le voit. Et donc de détourner, dans un canal de contour irriguant par contrebas la plaine fonctionnant par gravité. Et ce dispositif qui avait été ce dispositif donc de prise d'eau, qui avait été la source de constantes difficultés depuis des siècles, est donc définitivement fermé en 1737, et à partir de là, le système ne recueille plus que l'eau d'un certain nombre de sources locales, ce qui donne un débit qui ne représente environ qu'un dixième de ce qu'on arrivait à obtenir précédemment. Donc c'est devenu une toute petite infrastructure d'irrigation purement locale. En même temps qu'il était confronté à ces difficultés techniques, et pour des raisons de géopolitique, le système d'irrigation du Weibei a progressivement perdu son importance, si l'on peut dire, nationale. Certes, sous la dynastie des Tang, encore, c'est-à-dire jusqu'au 8e siècle, jusqu'au milieu du 8e siècle, il contribuait à la prospérité d'une région qui était également l'Interland, d'une grande capitale impériale. Et à ce titre, d'ailleurs, et c'est un détail qui mérite d'être souligné, la gestion de ce qu'on appelait alors le canal Bai, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion du canal Bai était assurée par un organisme du gouvernement central, situé à Xi'an, un organisme dont les règlements ont été d'ailleurs retrouvés, loin de là, et c'est un détail intéressant, parmi les documents de l'oasis de Dunhuang. Sous la dynastie des Song, surtout au XIe siècle, la région du Guangzhou conserve une certaine importance stratégique, et encore par intermittence, mais c'est plutôt parce qu'elle constitue désormais une zone frontière au contact d'empires barbares menaçants au nord et à l'ouest, et qu'à ce titre, le gouvernement central, qui a son siège loin de là, dans la plaine centrale, continue de considérer qu'elle doit être renforcée économiquement. Mais ensuite, sous les trois dernières dynasties impériales, sous les Yuan, sous les Ming et sous les Qing, ce n'est plus vraiment le cas. L'économie du Guangzhou n'est pas considérée comme un problème négligeable, certes, mais elle n'a plus désormais qu'une importance régionale. Et il en va de même dans les années 20 et 30 du XXe siècle, notez-le, c'est-à-dire à l'époque qui nous concerne directement. Mais là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Les projets de rénovation et de modernisation du site hydraulique du Weibei, dont j'ai déjà parlé, sont d'abord des projets locaux, ou plutôt régionaux. Et leurs promoteurs invoquent des arguments qu'on pourrait dire de patriotisme régional, lorsqu'ils essayent de mobiliser les autorités provinciales et de trouver des financements. Presque tous ces promoteurs, qu'il s'agisse d'ingénieurs, comme encore une fois le célèbre Li Yizhe, qu'il s'agisse de politiciens locaux, qu'il s'agisse de militaristes soucieux de renforcer leur base, presque tous ces promoteurs, de façon intéressante, sont d'anciens militants ou au moins d'anciens compagnons de route de la révolution de 1911 au Shanxi, à Xi'an. Et j'ai d'ailleurs consacré, je signale au passage, une assez grosse étude à ce groupe des révolutionnaires de 1911 à Xi'an et à son destin pendant les 20 années suivantes, une étude que j'ai appelée la génération 1911, même si les gens de cette génération avaient des âges parfois assez différents. Une étude dont j'espère qu'elle paraîtra bientôt dans un volume dédié à ma collègue et ancien professeur, Madame Marie-Claire Bergère. Or, ne serait-ce qu'à ce titre, c'est-à-dire cet ancien compagnonnage révolutionnaire, les promoteurs du projet sont de manière plus ou moins active et plus ou moins visible partie prenante à des débats et à des événements qui concernent tout le pays. La révolution, la contre-révolution, la modernisation, la démocratie, la résistance à l'impérialisme, que sais-je, et aussi, et à différentes reprises, la guerre civile. J'ai longuement évoqué la guerre civile au Guangzhou pendant mes précédents cours. Je ne me souviens pas si je l'avais formulé de cette manière, mais on peut dire qu'entre le début de 1918 et la fin de 1930, les années pendant lesquelles la région a vécu à peu près en paix sont beaucoup moins nombreuses que celles pendant lesquelles elle a été le théâtre d'affrontements armés, et d'affrontements dont certains ont été terriblement destructeurs. Je pense ici au siège de Xi'an en 1926, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres événements à citer. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'en règle générale, ces affrontements n'étaient pas seulement des conflits limités, des conflits régionaux, comme on dirait, qui auraient opposé, par exemple, des militaristes locaux en compétition entre eux pour prendre le contrôle d'un territoire convoité à cause de son rendement fiscal, ou alors des conflits locaux qui auraient opposé le gouverneur militaire du moment, c'est-à-dire le seigneur de la guerre installé à Xi'an par la grâce de ses alliances au niveau national, et qu'il y aurait opposé à des subordonnés récalcitrants, même si dans beaucoup de cas il s'agissait aussi de cela. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, la guerre civile au Guangzhou était la plupart du temps le reflet ou le prolongement local, ou même parfois la résultante de conflits qui se jouaient à l'échelle du pays. Qu'il s'agisse des affrontements entre les principales coalitions entre deux seigneurs de la guerre qui se disputaient le pouvoir à Pékin, ou entre les forces révolutionnaires de Chine du Sud se réclamant de Sun Yat-sen et les militaristes du Nord, ou encore, comme à la fin 1926, entre l'alliance entre nationalistes et communistes bénie par Moscou et les appointés du gouvernement de Pékin, ou encore, comme en 1930, entre le régime de Tiang Kai-shek à Nankin et les seigneurs de la guerre rebelles de Chine du Nord. Donc, dans tous ces cas, la guerre locale, la guerre civile dans le cadre local que j'ai défini, est d'une certaine manière le prolongement et la résultante d'événements qui ont une signification beaucoup plus vaste. En bref, ces personnages que nous avons rencontrés et que nous rencontrerons encore, qui manifestent parfois avec beaucoup de passion l'ambition de tirer leur province natale, ou pour certains d'entre eux la province où ils exercent le pouvoir, de son marasme économique et de son arriération culturelle, ou pour le dire autrement, qui rêvent de lui rendre sa prospérité et son rayonnement passé, à défaut d'en faire une nouvelle métropole nationale, comme sous les Han et les Tang, ces hommes de pouvoir et ces patriotes locaux, donc, sont partie prenante à des réseaux qui ont des ramifications partout, qui sont souvent basés sur d'anciens compagnonnages révolutionnaires ou d'anciennes camaraderies d'études, et pas seulement au Shanxi, et ils entrent dans des alliances politiques et militaires, les deux se distinguant rarement à cette époque, qui n'arrêtent pas de se recomposer au gré des vicissitudes de la politique nationale et des affrontements à l'échelle de pays. Et voilà pourquoi il est indispensable de considérer les événements locaux auxquels je m'intéresse dans cette dimension, comme je l'ai fait jusqu'à présent, d'inscrire l'histoire du Guangzhou ou du Shanxi dans l'histoire de la Chine républicaine, dans celle de la Chine des seigneurs de la guerre qui nous a occupés jusqu'à présent, et à partir de maintenant, dans celle du régime de Nankin. Et ceci vaut aussi, bien entendu, pour l'histoire du site d'irrigation du Weibei, lequel se trouvait à l'époque dans un état de complète déréliction, comme je l'ai dit, et qu'il s'agissait de transformer en une infrastructure moderne, spectaculaire même, qui non seulement ferait redécoller l'économie de la région et éloignerait à jamais, espérait-on, le spectre de la famine, mais qui serait en outre un modèle pour le reste du pays. Là encore, en effet, on retrouve l'articulation entre le niveau local et le niveau national. La reconstruction du site hydraulique du Weibei pouvait difficilement être envisagée avec les seules forces de la province, car l'économie locale se trouvait alors dans une situation de crise profonde, structurelle pourrait-on dire. En outre, le pouvoir provincial était au minimum mal assuré politiquement, et cela même après 1930, même si la situation s'était considérablement stabilisée, et ses finances, enfin, étaient dans un état proche de la banqueroute. Il était par conséquent indispensable pour réaliser un tel projet d'en assurer la publicité en dehors du Shanxi, dans les grandes villes du pays où se trouvaient concentrées les ressources politiques et financières du pays. À Pékin, puis à Nankin, après l'installation du gouvernement nationaliste, donc à partir de 1928, et aussi et surtout à Shanghai, à Tianjin ou à Hankou, c'est-à-dire dans les métropoles commerciales où résidait une bonne partie de la communauté internationale. L'ingénieur Li Yizhe, qui est le plus ardent promoteur de la modernisation du Weibei dans les années 1920, a ainsi fait, et à plusieurs reprises, la tournée des grandes villes de Chine pour essayer d'intéresser les bailleurs de fonds potentiels à ces projets. Et s'il pouvait le faire, et espérait trouver des interlocuteurs, mais il n'en a en fin de compte pas trouvé, ou en tout cas des interlocuteurs qui n'ont pas accepter ses propositions, c'est parce que lui aussi avait d'une certaine manière une surface nationale. Après son retour d'Allemagne en 1915, au terme de ses études d'ingénierie hydraulique à l'université technique de Danzig, Li Yizhe en effet avait très vite acquis un très grand prestige dans la profession, comme enseignant dans un institut spécialisé de Nankin, comme auteur de nombreuses publications spécialisées dans les revues techniques, comme membre de sociétés professionnelles et comme participant à des projets et à des comités où se retrouvaient les ingénieurs chinois et les ingénieurs étrangers actifs à l'époque en Chine. Et puis, surtout, c'est dans les grandes villes que je viens d'énumérer que les principaux organismes philanthropiques du pays avaient leur siège. Philanthropiques ou charitables, comme on les appelle aussi, et à vrai dire, la distinction n'est pas toujours très nette, dans la mesure où la majorité, comme je l'avais expliqué l'année dernière, la majorité des entreprises philanthropiques avaient une forte connotation religieuse, quand elles n'étaient pas purement religieuses, ouvertement religieuses. J'ai abondamment traité de ce sujet l'année dernière, donc, et je n'y reviens pas. Sinon, malgré tout, pour rappeler que ce qui caractérise ce qu'on peut appeler, je crois, la philanthropie moderne en Chine, qui se développe considérablement à partir de la fin du XIXe siècle, c'est sa vocation à intervenir partout dans le pays, même loin de ses bases, alors que la philanthropie chinoise traditionnelle, qui existait, bien sûr, restait purement locale. Là encore, donc, l'articulation entre instances locales et instances nationales est essentielle, et c'est bien pourquoi j'ai consacré donc une grande partie de mes exposés, il y a un an, au développement d'une philanthropie nationale en Chine, depuis la fin des Qing, avant de revenir, mais en fin de parcours, sur le terrain du Shanxi, pour voir dans quelles conditions et avec quels moyens les principales organisations charitables y étaient intervenues pendant la grande famine qui s'étend de 1928 à 1930. Plusieurs de ces organismes charitables de dimension nationale, dont une bonne partie, je le rappelle, était basée à Shanghai, plusieurs de ces organismes se trouvaient à la tête de réseaux de comités provinciaux ou locaux. Ces comités avaient vocation à intervenir localement, ce qu'ils faisaient souvent sur leur propre initiative, et surtout, c'est par eux que transitaient les ressources mobilisées par les instances dirigeantes. Et c'était le cas, pour ne donner que les principaux exemples, de certaines organisations charitables bouddhistes ou d'inspiration bouddhiste, dont j'ai cité plusieurs l'année dernière, ou encore de la Croix-Rouge chinoise, dont j'ai également parlé en détail, ou enfin d'une organisation que, là encore, j'ai très souvent évoquée et dont je vais bientôt reparler de façon assez détaillée, à savoir la Commission internationale de secours contre la famine, ou appelée en général CIFRC, d'après l'acronyme de son nom en anglais, c'est-à-dire China International Famine Relief Commission. Nous avions ainsi vu que, à Xi'an, en 1930, s'activait un nombre significatif de militants de la philanthropie appartenant à divers comités, des bouddhistes notamment, mais pas seulement. Et ces gens avaient en quelque sorte réussi à tenir le coup pendant les trois années terribles de famine, de chaos social et de guerre civile par lesquelles était passée la région depuis 1928. Mais ils n'avaient pas été en mesure de faire grand-chose en raison de leur isolement et du manque dramatique de moyens, les deux choses allant bien sûr ensemble. Et nous avions aussi vu que, aussitôt la situation politique de la province à peu près stabilisée, c'est-à-dire à la fin de 1930, ces mêmes responsables s'étaient démenés pour rétablir le contact avec les organisations charitables nationales, qui étaient souvent leur maison mère, et les supplier de reprendre leurs interventions au Shanxi et d'y envoyer des moyens conséquents. J'ai déjà eu l'occasion de souligner l'importance capitale dans l'histoire de la province du Shanxi et particulièrement de la région du Guangdong de ce tournant de la fin 1930. De ce moment, pourrait-on dire, dont nous avons vu tout à l'heure qu'il se place à l'articulation d'une longue période de crise socio-économique et d'un nouveau cycle de développement. La raison de ce tournant est d'abord politico-militaire. Pour le rappeler très rapidement, c'est en octobre 1930 que le régime de Nankin, c'est-à-dire le régime nationaliste, qui est le gouvernement légitime de la Chine depuis 1928, parvient à faire entrer pour de bon la province du Shanxi dans son orbite et à y installer une administration dépendant directement de lui. Avant cela, la région, dans les années précédentes, la région ne dépendait que nominalement de Nankin, elle était en réalité contrôlée par un personnage aussi pittoresque que redoutable et que nous avons déjà souvent rencontré, le seigneur de la guerre, Feng Yuxiang. Cette fois-ci, je favorise l'autre côté de la salle. Personnage extrêmement, extrêmement connu. Feng Yuxiang avait conclu un pacte avec le parti nationaliste, c'est-à-dire le Kuomintang, en 1926, pour conquérir la Chine et faire tomber le gouvernement de Pékin. Et ses armées, dans le cadre de cette opération conjointe, ses armées avaient réussi à prendre pied au Shanxi et à s'emparer de Xi'an, qui était alors assiégé, dès la fin de cette même année, 1926. Mais Feng Yuxiang avait ensuite rapidement pris ses distances avec Chiang Kai-shek. Depuis 1927, il était à la tête d'un groupe d'armées dépendant nominalement du gouvernement nationaliste, avant même que celui-ci n'ait reconquis la Chine du Nord, mais un groupe d'armées qui était en réalité son armée. Et elle était appelée à l'époque l'armée du Nord-Ouest, la Sibeitun. Un groupe d'armées sur laquelle, une armée sur laquelle il exerçait un commandement sans partage, du moins tant que ses généraux lui restaient fidèles. Et cette armée, c'est là que je voulais en venir, contrôlait une vaste zone incluant, outre le Shaanxi, le Gansu plus à l'ouest, une partie de la Mongolie intérieure au nord et une partie du Henan dans la plaine centrale. Et en fait, si nous regardons ces cartes que j'ai montrées tout à l'heure, vous pouvez repérer ces différentes régions. C'est en fait tout ce grand nord-ouest qui était aux mains de Feng Yuxiang à la veille de 1930. L'administration du Shaanxi, proprement dit, était donc aux mains des généraux de Feng Yuxiang à ce moment-là, lesquels avaient pour mission, d'une part, de venir à bout des seigneurs de la guerre locaux qui avaient conservé leur indépendance dans une bonne partie de la province. Et cette mission a été accomplie à la fin 1927 et dans le courant de 1928, au prix de combats particulièrement sanglants d'ailleurs. Et d'autre part, ils étaient chargés de mobiliser toutes les ressources de la province pour approvisionner la machine militaire de Feng Yuxiang. Les conséquences de cette exploitation impitoyable des régions qui servaient, si l'on peut dire, de grand arrière aux forces de Feng Yuxiang, les conséquences ont été d'autant plus dramatiques pour les populations locales que, depuis la fin 1928, le nord-ouest de la Chine était en butte à une sécheresse catastrophique, une sécheresse dont le résultat, combiné avec les déprédations et les exactions des militaires, a été l'une des pires famines de son histoire. C'était il y a 2 ans que je m'étais un peu étendu sur cette famine. Dans tous les cas, les relations entre Feng Yuxiang et le régime de Nankin se sont rapidement dégradées, à tel point que, au terme de manœuvres, de négociations et de coups bas, dont je vous passe le détail, Feng est entré ouvertement en rébellion à l'hiver 1929 et techniquement en guerre un peu plus tard, essayant même en juillet 1930 de mettre sur pied, avec ses alliés du moment, un gouvernement dissident et une assemblée nationale à Pékin. Mais de revers militaires en trahison grassement payée, puisque c'était une des méthodes favorites de Chiang Kai-shek, pour venir à bout de ses adversaires, il les achetait, donc de trahison, de revers militaires en trahison par corruption, l'armée du Nord-Ouest a été acculée à la défaite, en fin de compte, et le Guanzhong était son dernier réduit, et comme nous l'avons vu, donc ce réduit tombe en octobre de cette même année 1930. Le nouveau président du gouvernement du Shaanxi, désigné personnellement par Chiang Kai-shek, est le général Yang Hucheng, celui-là même qui est entré dans Xi'an en octobre 1930. Dans l'historiographie de Chine populaire, Yang Hucheng est célébré comme un grand héros et comme un patriote, ami des communistes. Patriote, il l'était sans aucun doute, et il avait beaucoup de communistes, plus ou moins crypto, dans son entourage. Mais ce qu'on arrive à voir de lui dans les sources, quand on regarde un peu plus près, montre que c'était en fait un personnage très compliqué. Et il a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. En outre, Yang Hucheng a toujours été très contesté de son vivant, et il avait de nombreux ennemis. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'évoquer ces relations souvent difficiles avec les étrangers qui travaillaient au Shaanxi au début des années 1930, à l'époque où il était gouverneur donc, et notamment avec les représentants de la CIFRC. Yang Hucheng était un natif du Guanzhong, c'était donc un enfant du pays. Il était né dans une famille de paysans misérables et il avait débuté comme chef de bandits avant de rejoindre avec sa petite troupe l'armée régulière en 1916. Dès sa fondation au début de 1918, Yang Hucheng s'était engagé dans les rangs de l'armée de pacification nationale. J'ai longuement parlé il y a 3 ans de cette dissidence armée d'inspiration Sun Yat-sénienne, donc de gauche entre guillemets, qui avait réussi à occuper pendant près de 4 ans la rive gauche de la vallée de la Wei, donc la région où se trouve justement le site du Weibei, et qui avait réussi à résister donc pendant toute cette période, avec des hauts et des bas, aux autorités de Xi'an. Deux ans plus tard, pendant le long siège de Xi'an en 1926, c'était encore Yang Rucheng qui avait tenu la ville, d'ailleurs au prix de souffrances inouïes pour les populations civiles, à tel point que, une fois le siège levé, il avait préféré aller se cacher dans un endroit non révélé. Par la suite, il avait commandé une armée dans le dispositif de Feng Yuxiang, puis il s'était exilé au Japon en 1928 pour ne pas avoir à choisir entre Feng Yuxiang et Chiang Kai-shek, et enfin, il s'était décidé à prendre le parti de ce dernier pour le compte de qui, comme nous venons de le voir, il avait donc reconquis le Shanxi. Et Chiang Kai-shek, qui pourtant se méfiait beaucoup de lui, l'avait donc nommé gouverneur de la province ou président du gouvernement provincial. Tel était le titre exact à cette époque. Et enfin, pour en finir avec ces rappels sur Yang Rucheng, je précise aussi, ou je rappelle, je ne me souviens plus si je l'avais dit, que Yang Rucheng a acquis une célébrité internationale au moment de ce qu'on appelle le coup de Xi'an. Le coup de Xi'an, le 12 décembre 1936, c'est-à-dire ce pronunciamento, si on peut dire, au cours duquel, en compagnie d'un autre général, Yang Rucheng avait kidnappé Chiang Kai-shek, qui était en visite d'inspection, et ne l'avait relâché que lorsque Chiang avait accepté de cesser les combats contre les communistes, qui étaient localisés à Yan'an, un peu plus au nord, et de s'allier avec eux contre les Japonais. Nous avons déjà rencontré en fait Yang Rucheng lorsque j'ai évoqué dans mes derniers exposés il y a un an les efforts frénétiques du nouveau gouvernement de Xi'an dès les premiers jours de son établissement pour mobiliser l'aide des organismes charitables du pays ainsi que celle du gouvernement de Nankin et même l'aide internationale. Tout cela afin de secourir les populations affamées et de relancer l'économie. En effet, la fin de la sécheresse était en vue, mais le problème était d'aider les paysans à passer l'hiver et à tenir le coup jusqu'à la prochaine récolte espérée, au printemps suivant. Et déjà, le problème était de les aider à semer cette récolte immédiatement, puisque la pluie était revenue, et donc il fallait procéder de toute urgence à des achats massifs de semences. Nous avions vu qu'un des premiers soins de Yang Rucheng, après son arrivée à Xi'an, avait été de mettre sur pied une commission des secours de la province du Shanxi, dont les responsables étaient en majorité des chefs de la philanthropie locale. Et cette commission avait été chargée de coordonner aussi bien l'organisation des secours, on était encore en pleine famine, que les appels à l'aide lancés à travers tout le pays. Le sentiment qui s'exprime dans de nombreux articles publiés à Xi'an, à cette époque, c'est aussi une chose que j'avais notée, est celui d'une renaissance, comme si l'on sortait enfin d'un long tunnel. Autrement dit, cette transition politique de la fin de 1930 a effectivement été ressentie par les habitants de la province comme un point tournant, comme l'orée d'un nouveau cycle de tranquillité et de progrès économique. Certes, les éléments de ce nouveau cycle sont encore à ce moment des éléments virtuels. Ce ne sont encore, disons, que des espoirs, des projets. Et nous verrons plus tard que, dans les années suivantes, ces éléments virtuels ont mis du temps à s'actualiser et à produire leurs effets. Ou si vous préférez, nous verrons que la transition a été longue. Par exemple, l'un des grands arguments des autorités provinciales et de la Commission des secours pour mobiliser de nouveau les organisations philanthropiques chinoises et étrangères et les convaincre de revenir au Shanxi, un des grands arguments, c'était le retour à la paix civile, le rétablissement de l'ordre. En effet, même sans parler des affrontements militaires, l'insécurité généralisée et le banditisme avaient été l'une des principales raisons pour lesquelles les organismes charitables de Pékin, de Shanghai ou de Tianjin avaient cessé d'intervenir à partir de 1929, à de rares exceptions près. Or, affirme-t-on à présent, et dès la fin 1930, c'est fini. Le président Yang Rucheng a restauré l'ordre et éradiqué le banditisme, ou il est en train de le faire. En réalité, on n'en était pas encore tout à fait là, même si certaines descriptions évoquent en effet la discipline nouvelle imposée dans la ville de Xi'an par l'armée nationaliste. Et des événements que je mentionnerai plus tard, en fait, montrent que, en 1932 ou 1933 encore, l'insécurité restait grande, même sans s'éloigner beaucoup de Xi'an, et que dans des zones assez étendues, le contrôle du gouvernement provincial restait extrêmement limité. Mais il n'en est pas moins indiscutable que la coupure de 1930-1931 est tout à fait réelle, cruciale même. Et il est clair qu'elle a enclenché une nouvelle dynamique dans la région, même si, à beaucoup d'égards, cette dynamique n'a eu d'effet en profondeur qu'à plus ou moins long terme. Mais elle les a eus, ces effets, et si cette action dans la durée a été possible, c'est d'abord et avant tout parce que, en dépit de quelques soubresauts, sans grand impact sur les conditions de vie de la population, la région du Guangdong a bénéficié, à partir de l'installation du pouvoir nationaliste à Xi'an, fin 1930, a bénéficié d'une stabilité politique qu'elle n'avait pas connue depuis la chute de l'Empire en 1911. De ce point de vue, on peut dire que le contraste est total avec les 20 années précédentes, pendant lesquelles, comme nous l'avons assez vu dans mes précédents exposés, pendant lesquelles les épisodes récurrents de guerre civile et les changements de régime à Xi'an n'avaient cessé d'entretenir le désordre. Et en même temps, ils ne pouvaient que décourager les tentatives sérieuses de modernisation économique ou les faire tourner court. En outre, contrairement à une grande partie de la Chine, après 1930, le Shanxi est resté pour l'essentiel à l'écart de la guerre. Les Japonais n'y ont jamais pris pied, même s'ils étaient capables de bombarder Xi'an, et le gouvernement nationaliste, réfugié à Chongqing, donc dans la province du Sichuan, depuis 1938, a en fait déployé des efforts non négligeables pour développer le Shanxi et pour en faire une des bases économiques de la Chine libre. Cela étant dit, si le cycle de développement économique et de retour à l'ordre social dont je parle a été plutôt lent à se mettre en route, dans certains domaines, les choses sont allées assez vite. Et là, nous retrouvons l'irrigation et le projet du Weibei, dont la réalisation a eu un impact crucial sur l'ensemble du processus. J'ai déjà beaucoup parlé de cette réalisation ces dernières années. Je vous en avais même montré plusieurs images, et je me contenterai donc aujourd'hui de vous rappeler les faits essentiels. Le fait essentiel, peut-être, et qui explique en effet pourquoi les choses sont allées relativement vite, c'est l'engagement de la CIFRC dans cette affaire. Vous vous souvenez sans doute que l'ingénieur Li Yizhe, qui était revenu dans son Shanxi natal à l'été 1922, avait très vite mis au point un projet extrêmement ambitieux de modernisation du canal et de reconstruction du site, et que, dès 1924, il avait réussi à y intéresser la CIFRC en la personne du chef de son département d'ingénierie, c'est-à-dire l'Américain O.J. Todd. On l'appelle toujours avec ses initiales, comme souvent les Américains. Comme le Shanxi connaissait alors, nous sommes donc en 1924, une brève période de tranquillité relative, une sorte d'accalmie, et que les autorités locales et provinciales étaient elles aussi intéressées à la réalisation du projet, celui-ci avait semblé un temps avoir de sérieuses chances de trouver un financement et de pouvoir démarrer. Et la CIFRC avait même commencé d'en faire la publicité dans la presse nationale. Malheureusement, la dégradation rapide de la situation politique et la reprise de la guerre civile dès 1925 avaient coupé court à ses ambitions, si bien que dans les années suivantes, on n'en a plus parlé. Li Yizhe, pour sa part, donc le principal concepteur du projet, Li Yizhe avait perdu tout espoir et il avait quitté la province en 1927. Pourtant, la CIFRC gardait le projet dans ses cartons. J'avais raconté comment, à l'été 1930, au cœur de la famine, un certain John R. Baker, B-A-K-E-R, un vieux routier de la philanthropie en Chine, américain, qui avait alors été désigné provisoirement par la CIFRC comme directeur de ses opérations de secours, comment donc Baker avait parcouru le Guangdong pour essayer de distribuer quelques secours et de lancer quelques chantiers, suivant la vieille formule, des travaux publics payés en secours distribués aux travailleurs, formule que la CIFRC mettait en pratique chaque fois que c'était possible, mais qui existait déjà à l'époque impériale. Et j'ai raconté comment, avec l'aide d'un ingénieur norvégien nommé Sigurd Eliassen, qui travaillait également pour la CIFRC, Baker avait ressuscité le projet du Weibei sous une forme un peu modifiée, on pourrait même dire un peu édulcorée, au milieu d'un grand enthousiasme populaire, et avait même réussi à conclure un accord préalable avec le gouverneur du Shanxi, lequel était encore une créature de Feng Yuxiang et allait être chassé de son poste par les nationalistes 2 mois plus tard. Un accord au terme duquel la CIFRC s'engageait à avancer la moitié du coût si le gouvernement de la province s'engageait de son côté pour l'autre moitié, soit à peu près $500,000. Comment le gouverneur du Shanxi prévoyait de trouver cet argent, c'est un autre problème, mais il n'y a pas lieu ici de s'y attarder. On voit donc que l'affaire était déjà sérieusement engagée au moment du changement de régime à Xi'an. Et en effet, lorsque l'ingénieur Todd s'est à son tour rendu au Shanxi en octobre 1930, quasiment sur les talons de Yang Hucheng et de son armée, ce dernier a immédiatement accepté de finaliser l'accord qui avait été conclu avec son prédécesseur. Comme on l'a vu, dès son arrivée en poste, Yang Hucheng avait donné la priorité absolue au secours et à la reconstruction économique. Et de ce point de vue, le démarrage sans délai du chantier du Weibei ne pouvait être qu'un signal fort, propre à rassurer la population et à lui montrer que les choses étaient en effet en train de changer de façon décisive. On peut d'ailleurs voir dans la revue hebdomadaire publiée par le Comité provincial des secours, et j'en avais aussi parlé de cette revue, on peut voir dans cette revue que l'affaire est suivie pas à pas, numéro après numéro, qu'il s'agisse du banquet offert à Todd par Yang Hucheng, auquel assistent tous les responsables de la philanthropie locale, qu'il s'agisse de la cérémonie marquant le démarrage du chantier, le 6 décembre 1930, j'avais montré même une photo, je crois, de cette cérémonie, ou qu'il s'agisse de l'avancement du chantier pendant ses premières étapes, toutes premières étapes, puisque la revue cesse de paraître après 8 ou 9 numéros, donc au début de 1931. Comme j'en avais parlé assez en détail dans mon cours de 2005, je ne reviens pas sur les aspects techniques et sur les péripéties de la construction du canal Tinghui, ainsi qu'on l'a baptisé donc un peu avant son inauguration. Cette inauguration a eu lieu le 20 juin 1932, en présence de nombreuses personnalités venues de tout le pays, mais à cette date, le dispositif était loin d'être terminé. En particulier, il manquait encore plus de la moitié du réseau de canaux secondaires destiné à amener l'eau jusque dans les champs. Et la superficie effectivement irriguée était donc diminuée d'autant. Et s'il en était ainsi, c'était parce que les autorités provinciales n'avaient pas réussi à s'acquitter de la part du chantier qui leur revenait par manque de fonds. On avait bien prévu de lever un emprunt sur les futurs bénéficiaires de l'irrigation, de la vente de bons d'irrigation, mais cet emprunt avait très peu rapporté à cause de l'appauvrissement des riverains d'abord, principalement l'appauvrissement qui était aggravé encore par un retour de sécheresse à l'automne 1931 et au début de 1932. Donc le projet d'emprunt avait été un flop et de son côté le gouvernement provincial était dans une situation financière de toute façon catastrophique. La fin des travaux a donc dû être effectuée car elle a été effectuée en 1933-1934 en partie par les ingénieurs de la CIFRC et dans l'ensemble avec des fonds levés par celle-ci auprès d'un comité shanghaïen de lutte contre la famine ou avec des fonds levés en Amérique même auprès des organismes philanthropiques. Je n'entre donc pas dans le détail de tous ces événements. En revanche, il y a deux aspects que je voudrais souligner d'emblée, ou plutôt dont je parlerai dès le début de mon prochain exposé, qui sont d'une part, la place des relations entre Chinois et étrangers dans le processus de développement que je m'apprête à décrire, et notamment au niveau de la CIFRC, la place des relations entre Chinois et étrangers, et non seulement entre Chinois et étrangers, mais entre étrangers et autorités chinoises en général, au-delà du cadre de la CIFRC. C'est en effet un aspect de ces politiques de développement avec une aide internationale qu'il est important de tirer au clair. Et l'autre événement dont je parlerai, c'est l'impact du modèle du Weibei sur le cycle de développement, toujours sur le même cycle de développement qui commence, disons, en 1931. Donc, de ce point de vue-là, j'aborderai des aspects beaucoup plus techniques sur les effets de modernisation qu'a eu cette opération. Donc, je commencerai à parler de tout cela la semaine prochaine, et comme vous verrez, je partirai en fait de l'intérieur de la CIFRC que je considérerais par conséquent sous un angle différent de ceux que j'ai pu adopter jusque-là. Je veux dire que la CIFRC en tant qu'organisation sino-étrangère, comme l'indique son nom chinois, faisait par définition collaborer des Chinois d'une part et des Européens ou des Américains d'autre part, et il est intéressant d'examiner quelles étaient leurs relations, lesquelles étaient beaucoup plus difficiles en fait que ne le suggèrent les sources traditionnelles. Donc je parlerai de ça, je partirai de ça, et ensuite je poursuivrai mon enquête, cette petite enquête sur les relations entre Chinois et étrangers qui met entre autres personnes en cause un acteur important des politiques de développement au Shanxi, c'est-à-dire l'ingénieur Todd. Je poursuivrai cela en évoquant certains incidents qui sont produits dans la région de Xi'an et qui soulèvent à leur tour la question des relations entre les responsables de la CIFRC ou les étrangers en général circulant dans la région et les autorités du Shanxi. Et enfin, je dirai un mot sur les relations entre les cadres de la CIFRC et les travailleurs sur ces chantiers qui sont aussi un autre aspect du problème. C'est donc au terme de cette digression, qui n'en est d'ailleurs pas entièrement une, que j'aborderai les aspects plus proprement économiques du développement dans la région du Guangzhou après 1930. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.